Bonjour, on est le 22 juin sur la route pour la radio. Un peu plus tôt, les derniers fêtards étaient encore là, dans des températures enfin supportables ce matin. Ils narguaient les leftos, c'est-à-dire nous. Qu'en est-il à Tokyo? Eh bien, on a là-bas un reporter météo, fête et célébrité, qui s'appelle Rio Edouard Baird, et qui nous en dit plus. Bonjour Edouard.
Bonjour Marie. Pendant que les échos de Paris nous arrivent ici, un peu décalés, un peu tamisés par le temps qui passe et le décalage horaire, on sait que la France s'éboue dans des chaleurs caniculaires où les corps sont à la fois comblés et martyrisés entre désir, pulsion, entre sueur et consternation, immobilité totale, entre suffocation et envie. Ici à Tokyo, j'ai marché cette nuit dans les rues, je suis allé des bars mythiques du cinéma, comme La Jetée, ce bar qui a été filmé par Chris Marker et Joseph Losey, qui est dans un petit étage, on monte 6 marches, on retombe en roulant en rentrant parce que le saké a fait son effet. Et ensuite, j'étais dans un quartier étrange où des jeunes hommes à la coiffure molle sont là comme hôtes et font rêver les jeunes filles en leur faisant croire qu'ils les aiment et sont payés beaucoup plus que des dames de Pigalle. Et là, des centaines de personnes se croisent et se rencontrent. Voilà, voilà, chère Marie Missé. Et on est rendu aujourd'hui parce que c'est ce festival de cinéma, Isabelle Huppert va passer nous voir et Catherine Deneuve qui viennent pour ce festival.
Bah dis donc.
Voilà.
On laisse un petit peu la musique quand même après cette annonce tonitruante.
Non. Tonitruant. C'est pas du tout ça, tonitruant.
Ah bon.
Là, c'était pas tonitruant, c'était un peu quoi. Il y a un truc en mais pas avec du Tony d'abord.
D'accord. Et j'ai quand même une question sur les coiffures molles.
Oui, mais parce qu'ils sont... C'est-à-dire la coiffure molle, c'est de se faire des mèches un peu,
oui,
avec des teintures qui faiblissent le cheveu, si vous voulez. Vous savez que je suis en quatrième année d'études capillaires.
C'est vrai que vous y connaissez beaucoup.
Et il y a une mode, c'est pas vraiment des gigolos, ce sont des types qui rassurent, ils vendent du sentiment, de la gentillesse, de l'encadrement, de la tendresse à des jeunes femmes. Ils sont là très minces, très frêles, et avec des petites coiffures un peu teintes en blond, des cheveux ramenés sur le visage, qui sont entre le complément capillaire, l'implant, la moumoute traditionnelle. C'est très,
c'est
très
Bayrou, quoi.
Non, arrête, vous êtes obsédé. Je sais que vous êtes béromaniaque. On me l'a signalé. J'ai parlé à l'émission une demi-heure. Il paraît que vous ne parlez plus que de François Bayrou. Je vais écouter votre journal attentivement, Marie.
Je peux vous dire qu'en tout cas, s'il y a quelqu'un qui n'a pas une coiffure molle, c'est effectivement Thierry Paret dont les cheveux s'élèvent vers le ciel. Thierry Paret, les informations peut-être.
Oui. On écoute attentivement.
Tu sais, je ne vais pas parler de François Bayrou, tiens, justement. Voilà, je l'ai cité une fois et je ne ferai pas deux. 15 hommes, 15 femmes, 20 ministres, 10 secrétaires d'État. Voilà, ce sont les principales caractéristiques du gouvernement Philippe II. Jusqu'à présent, ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard remplace Richard Ferrand à la cohésion des territoires. 15 ans après avoir été secrétaire d'État au budget, c'était sous Lionel Jospin. Florence Parly fait son retour au gouvernement. Elle remplace Sylvie Goulard aux armées. Haut fonctionnaire du Quai d'Orsay et présidente de l'ENA, Nathalie Loiseau remplace Marielle de Sarnez aux affaires européennes. Et puis la juriste Nicole Belloubet remplace, je suis obligé de leur citer, François Bayrou à la justice. A noter deux nouvelles recrues à droite, Sébastien Lecornu, très proche de Bruno Le Maire. Il est nommé secrétaire d'État. Le sénateur LR Jean-Baptiste Lemoyne, qui avait été l'un des premiers alliés Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, devient lui secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Et puis après les départs de François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez, deux nouvelles personnalités du Modem font leur entrée au gouvernement. Il s'agit de Geneviève Darrieussecq, élue haut la main dimanche dernier dans les Landes, et puis de Jacqueline Gourault, sénatrice très proche de François Bayrou. Dans le reste de l'actualité, le projet de loi controversé antiterroriste ne reprend qu'une partie des recommandations du Conseil d'État. Le texte doit être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le Conseil d'État a validé l'essentiel de ce projet censé remplacer l'état d'urgence. Alors pourquoi un Conseil des ministres aujourd'hui, hein? Normalement c'est le mercredi, donc là on est jeudi. C'est tout simplement parce que le gouvernement a été nommé hier seulement. C'est tout un symbole qui part en fumée. La grande mosquée Al-Nouri et le minaret penché de Mossoul ont été détruits. Selon l'armée irakienne, les djihadistes de l'organisation État islamique l'ont fait sauter. C'est une déclaration officielle de défaite du groupe. C'est ce qu'affirme le premier ministre irakien. Les djihadistes, eux, accusent en l'occurrence les États-Unis. Ils affirment que ce sont les Américains qui sont à l'origine de ce bombardement. 67 départements qui sont encore en vigilance orange en Ile-de-France. La circulation différenciée est mise en place dès ce matin. La canicule va persister jusqu'à au moins demain sur la majeure partie du pays et des orages éclateront dans l'après-midi sur la moitié est. Alors demain, quand même, les températures ont baissé un peu, mais tout est relatif. Il va faire 28 demain au meilleur de la journée. Ça reste quand même assez élevé. En Chine, alors que certains célébraient hier l'arrivée de l'été avec la fête de la musique, d'autres, donc en Chine, célébraient l'arrivée du même été en mangeant du chien, puisque la ville chinoise de Yulin a donné le coup d'envoi hier de la plus célèbre fête de viande de chien. Et comme chaque année, dans les rues de Yulin, des bouchers débitaient hier librement des morceaux de viande canine. Plus de 10 000 canidés sont généralement abattus lors de cette fête. Entre 10 et 20 millions de canidés seraient tués annuellement en Chine pour être mangés. On va quand même préciser deux choses. D'abord, la consommation de chiens n'y est pas illégale, mais surtout, elle reste quand même extrêmement minoritaire. L'Euro de basket féminin et l'équipe de France va rencontrer la Slovaquie aujourd'hui.
François Bayrou. J'ai pas entendu le mot François Bayrou depuis quatre phrases.
Oui, peut-être qu'il va participer François Bayrou à cet Euro de basket féminin, au moins dans les tribunes. Maintenant, il a du temps, en l'occurrence.
Il ne mange pas de chien. Vous pouvez pas le mettre dans chacune de vos infos.
Si, j'aurais pu essayer.
Bayrou, essayez là. Ça fait plaisir, vous savez. Parce que Bayrou, s'il y a un côté, même en dehors de la politique, il élève des chevaux, il est béarnais, c'est un mot qui fait plaisir. En plus, il y a du Y, il y a du bail, il y a du bay, c'est bien. Bayrou, ça fait plaisir.
Ouais. On peut terminer avec un mot de la. Oui, on peut terminer avec un mot de la Coupe des Confédérations de football. Le Portugal a battu la Russie 1-0. Ils ont la peau dure, les Portugais. PAU, Bayrou, tout ça. Bref.
Ah oui.
Et le Mexique a battu la Nouvelle-Zélande 2-1. Un match chaud bouillant à base de bagarre générale, notamment. Enfin bref, vive le sport.
D'accord. Donc en gros, si je retiens ce journal ouvert sur le monde avec un regard moderne, les Chinois mangent du chien, les Portugais ont la peau dure, et les Mexicains, ils se battent comme des chiens.
Mon vieux,
le monde a changé, Thierry Paré. Je crois que vous êtes tenu à part du grand brassage merveilleux qui est en train d'avoir lieu et que tous les lieux communs se sont effondrés. Je crois que vous êtes du monde ancien, là, Thierry Paré. Je suis désolé de vous dire.
J'ai pris un coup de vieux, là.
Vous allez être balayé aux prochaines législatives. Oui. Avec Menucci.
Je n'ai pas dit mon dernier mot.
Marie, vous a intéressé le journal ce matin?
Oui, j'étais bien. J'ai bien écouté. J'ai vu cette information.
C'était bien. Et ma fille, quand elle rentrait de l'école, c'était comment l'école? C'était bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À la cantine, on a mangé des frites et tout. C'est ça qui s'est passé pour vous?
J'ai retenu quand même cette histoire de chien en Chine. Et puis que quand même, Thierry, au bout d'un moment, disait « Attention, il ne mange pas souvent des chiens. » Parce qu'il ne voulait pas non plus trop pousser le racisme anti-chinois. Mais il a quand même dit. Il n'était pas obligé.
C'est pas vraiment en Chine. C'est pas vraiment du chien, c'est pas vraiment en Chine. Bon, je vous laisse parce que je vais essayer de faire couper la clim dans ma chambre d'hôtel.
Très bien. Du coup, nous, on reste ici, seuls. Très bien.
Voilà.
Et du coup, on va écouter un peu de pub. La pub. Nova.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2 heures d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Cher bourgeon de mer.
7h, 9h. Plus près de toi.
Nova. De jour en jour, le club des connoisseurs s'étoffe. Ici à Paris, au moins 3 personnes autour du micro, Charlène, Théo et moi-même. Et puis à Tokyo, je crois que vous êtes très nombreux à être des connoisseurs.
Oui, c'est du lourd. Il y a une vraie envie aujourd'hui de prendre la parole, de s'exprimer, d'attraper le micro. Je trouve ça formidable et très enthousiasmant pour les années à venir, cette envie de s'exprimer. Je suis là avec Jean-Marc Lalanne, ce grand journaliste, ce grand maître du cinéma qui accompagne ce festival et qui depuis des années suit les mouvements du cinéma français dans le monde et les cinémas du monde en France. Donc voilà.
Voilà,
Lui passer la parole directement. C'est peut-être ça qui se fait en radio. Jean-Marc Lalanne a vous accompagné. Vous êtes venu voir Vous êtes venu voir l'accueil des films français? Vous êtes venu voir un état des lieux du cinéma japonais?
Oui, je fais un reportage sur la perception du cinéma français par les cinéphiles japonais, à la fois son exportation, mais aussi, pas seulement d'un point de vue économique, aussi comment les cinéphiles japonais envisagent le cinéma français aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont un peu bloqués sur le cinéma de la nouvelle vague, ou est-ce que le cinéma français d'auteurs contemporains les intéresse?
Alors justement, c'est quoi les films? Parce que effectivement, moi je crois qu'à l'époque on disait depuis Amélie Poulain qui ont été des grands films cultes ici. Quels sont les films français qui marquent les cinéphiles, ou au moins les étudiants en cinéma, ou les branchés locaux?
Alors, d'un point de vue, disons, chiffre, c'est plutôt des films de genre comme La Belle et la Bête de Christophe Gans, qui a fait de très bons scores, ou les films animaliers de Jacques Perrin, qui rassemblent un public un peu large. Mais disons, quand on parle à des étudiants de cinéma, ce qui les intéresse, c'est plutôt le cinéma d'auteur, c'est plutôt Arnaud Desplechin, par exemple. Et surtout la nouvelle vague. Il y a vraiment, par exemple, en ce moment, il y a une rétrospective Romare à Tokyo, et la salle est pleine à chaque séance.
Alors moi, quand j'étais venu les premières fois, je me rappelle, il y avait Romane Boringer pour Les Nuits Fauves, toutes les jeunes filles étaient habillées comme elle. Est-ce qu'il y a encore des phénomènes de suivisme sur des actrices françaises ou des films?
Je crois qu'il est assez doux, par contre, il est assez populaire ici auprès des jeunes cinéphiles. Je pense pas qu'il y ait eu d'effet aussi fort qu'Amélie Poulain, effectivement, il y a une quinzaine d'années, d'identification massive comme ça au modèle d'une jeune fille française depuis.
En tout cas, ça me rassure. J'ai eu peur que le professeur Lalanne me dise que ce sont les animaux de Jacques Perrin qui soient les plus populaires. Et évidemment, c'est une concurrence pour nous qui est dure. Déjà que les héros de dessins animés sont souvent plus beaux que nous. Voilà les connoisseurs Japon. Que se passe-t-il à Paris?
Alors déjà, on peut préciser en termes de connoisseurs que Jean-Marc Lalanne est une fois par mois sur Nova, de temps en temps. Ça s'appelle Dans les yeux d'eux. C'est une émission sur les films cultes des gens qui l'interrogent, n'est-ce pas? Je ne me trompe
pas. Des très, très grandes interviews de Catherine Deneuve, Jane Birkin, vous avez fait aussi.
On peut les retrouver toutes en podcast sur
planète.com. Allez, les sont des interviews cultes.
Voilà.
Parce qu'ils se servent de l'intimité, de cette confiance que lui font les actrices françaises. J'ai vu ces techniques d'interview, il les masse, il leur fait servir des boissons.
Le serpent dans l'huile de la jungle, vous voyez un petit peu.
Oui, c'est ça, il les mesmérise, atmosphère tamisée, vas-y ma grande, il n'y a que nous deux, parle-moi. Donc il fait sortir des choses terribles.
Kaha, c'est le nom du serpent.
Très joliment dit,
c'est bien précisé. Alors, dans les autres infos de connoisseurs, est-ce que déjà on peut. Tout à l'heure, on n'a pas eu le jingle, je crois qu'il est bien. Voilà, je l'aime bien. Tant qu'on en est à parler d'animaux morts et de débats autour de ça, on parlait des chiens en Chine. Vous savez que la semaine dernière, il y a un toréador qui est mort pendant une corrida. Et alors, par exemple, là, je vois sur le site funéraire.info, peut-on se réjouir de la mort d'un toréador? C'est pas très gentil, mais tout ça pour dire qu'il y a encore des gros débats. Et j'ai lu ce matin que les débats sur la corrida, pour savoir si c'est barbare ou pas, barbare ou sacré, ben ça date au moins du XVIIe siècle. On retrouve des textes du XVIIe, du temps de Louis XIV, par exemple, de femmes de la noblesse française qui disent « Ouh, je sais bien que c'est un truc très ancien qui vient carrément des Maures, mais il semble que ça devrait être aboli. » Alors, en plus d'un petit peu d'anti-corrida, on retrouve aussi ici les germes de l'islamophobie, puisque les Maures, c'est les musulmans, c'est leur nom qu'on leur donnait à l'époque. Aujourd'hui aussi, on peut encore dire ça.
Enfin, en tout cas, la corrida est évidemment très critiquable, très discutable, mais il y a souvent dans les associations de défense des animaux et d'attaque de la corrida un goût plus fort pour tuer les êtres humains que pour protéger les animaux. Je m'aperçois dans certains combats et dans certaines violences de prise de parole, comme ça, quelqu'un qui dit « c'est génial qu'un torero meurt ».
Voilà, le débat qui s'intitule comme ça.
Ouais. Voilà.
À Charlène, je crois que tu as une information sur des bus à Nantes.
Oui, tout à fait. En fait, hier...
Bonjour. Parce qu'ici... Bonjour Charlène, je parlais, on était là dans les rues japonaises, les gens me disaient « Alors Nantes, les bus, ça en est où ?»
Eh bien alors ça en est qu'hier, les chauffeurs de bus et de tram nantais ont eu interdiction de travailler en Bermuda. On leur a dit « Non, c'est pas classe, c'est pas digne. » Et du coup, ces messieurs sont venus au travail en jupe pour avoir les jambes à l'air et être un petit peu au frais. Et moi, je dis chapeau aux Nantais qui ont le torse fier et la jupe légère.
Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Est-ce qu'il faut interdire aux hommes de montrer leurs mollets? Leur cheville, jusqu'où le pantalon pour homme est-il encore acceptable pour vous, pour votre œil?
Une position extrêmement souple sur la question.
Ouais, vous êtes
aussi.
Très souple.
Ouais. Très souple, très très souple.
Mais peut-être pour des raisons esthétiques, comme le pantacourt pourrait être amené un séjour au commissariat. De mon point de vue, je pense que le port de pantacourt.
Le pantacourt et les chaussures bateau, c'est interdit.
Oui, ben non, moi je reste souple.
Vous êtes très
souple. Je crois qu'on peut peut-être le retour du pantacourt. Peut-être qu'il reviendra un jour. Peut-être qu'il y aura du beau pantacourt. Je ne sais pas. Je pense à vous.
Et le slip de sortie, le slip de balade, non?
Ah, tout à fait souple sur la question également. Le slip
de sortie. Il y a des villes où on a le droit de se balader en maillot de bain dans la ville et d'autres non.
Et on devrait être tout nu, mais à Barcelone, on a le droit d'être nu. Sur ce, on va écouter un peu de
musique. Je préfère ce débat à celui de l'été dernier sur le burkini. On n'en pouvait plus les arrêter anti-burkini et toutes ces conneries-là. Là, au moins, on est là sur la tenue slip masculine dont on ne parle jamais assez. Slip ou caleçon, c'est notre grand débat tout à l'heure avec Isabelle Huppert et Catherine Deneuve.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. 7h, 9h.
Édouard Baird, 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Pendant qu'ici à Paris passe My Boy Lollipop, Édouard Baird à Tokyo essaye de refiler du thé vert ou du jus de pomme raisin à Isabelle Huppert qui refuse et qui veut de l'eau. Et hier, Guillaume Giraud a préparé une petite rétrospective sonore autour d'Isabelle Huppert. On écoute.
Je vous ai vu hier à la télé.
Ah non, non, c'était pas moi, non?
Dis-le que t'es une grosse salope! Allez, dis-le!
C'est complètement fou!
Quoi, mais tu marmonnes!
T'as quel âge?
16.
T'as déjà baisé?
Non.
Oh là là, c'est pas vrai. Merci. Oh, ma pauvre petite chérie.
Contre l'amour, voulez-vous vous défendre? Empêchez-vous de voir et d'entendre.
Tiens, ben je ne vous attendais plus.
J'ai une panne de voiture, j'ai dû prendre le bus. Enfin voilà, je suis là.
Ben vous avez plus d'une heure et demie de retard. Non, non, moi je ne prends pas le risque de vous embaucher.
Qui est cette personne qui parle? Qui est cette personne dans le miroir? Qui est cette personne qui aime, qui frappe, qui vit, qui souffre? Est-ce que c'est moi? Est-ce que les acteurs ou les actrices devant l'écran regardent avec éloignement, avec effarement, avec enthousiasme, comme si c'était quelqu'un d'autre, cet autre soi qui se débat sur l'écran? Vous reconnaissez Isabelle Huppert dans les rôles que vous venez d'entendre?
Pas toujours, justement. Oui, pas toujours. Voilà. C'est vraiment des autres soi-même, à tel point qu'on ne les reconnaît pas tout de suite.
Et on arrive à se regarder. Il y avait une description, François Sagan, elle disait que Nureyev, quand il s'entraînait devant le miroir, il arrivait à regarder quelqu'un d'autre, il pouvait s'entraîner vraiment objectivement. Vous pouvez vous regarder objectivement cette personne qui est en face ou pas?
Ben, j'arrive plus à la regarder qu'à l'entendre, en fait. Je me disais en écoutant, et encore là, je m'entendais dans d'autres moi-même. Mais par exemple, s'entendre à la radio, c'est très difficile. Oui, me regarder, oui.
C'est la voix, en fait. On est gêné par notre voix.
Très gêné, c'est hyper gênant, la voix, beaucoup plus que l'image. C'est très bizarre. Parce que, de toute façon, l'image, on se voit rarement soi-même. On est toujours vu à travers un filtre. Alors que la voix, on a plus l'occasion de l'entendre comme si c'était... alors que c'est la sienne. Et là, c'est très difficile.
Là, je vous ai mis un casque, c'est une mauvaise idée. Vous voulez qu'on enlève le casque?
Non, c'est une très bonne idée, parce que, justement, elle arrive un peu améliorée, un peu déformée, mais... dans ce qu'elle peut avoir de meilleur.
Alors on se connaît bien au bout d'un moment, donc on dit, tiens, ma voix, elle est ceci, là, elle est cela. Vous diriez quoi, vous, sur votre voix?
Je pense qu'on ne peut pas vraiment dissocier le fond de la forme. Donc c'est non seulement comment elle est, mais c'est ce qu'elle dit, surtout.
Donc là, vous dites juste, je me suis laissé attraper par une émotion ou...
Quand je l'écoute, non, mais c'est peut-être d'entendre ce qu'on dit qui est gênant.
Ah, c'est ce qu'on dit. Moi, je crois que c'est parce que parfois la voix, elle vrille, elle part dans les aigus, dans les graves, où elle vous échappe, non?
Ah non, non, ça, au contraire, c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Et c'est ce qui peut vous arriver de mieux de l'entendre dans ces conditions. Non, non, c'est plutôt de l'entendre dire certaines choses, et pas d'autres, peut-être.
Mais alors, ça, quand sont les mots des autres, ça, c'est moins embêtant, non?
Oui, enfin, ça dépend quels autres et quels mots, mais c'est en principe moins embêtant.
Alors, on ne pense pas à la voix quand on se lance dans les... Si j'étais, par exemple, je sortais du conservatoire, j'étais une actrice débutante qui viendrait vous voir, je ne penserais pas à ma voix. Vous me diriez quoi? Je vous dirais, je voudrais faire du cinéma. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que, je ne sais pas, le physique, la voix, la disponibilité, qu'est-ce que vous me dites? C'est une des meilleures imitations de jeunes comédiennes qu'on ait fait. Qu'est-ce que vous... Les gens viennent vous voir et c'est facile de donner des conseils, par exemple.
Je leur donnerais certainement pas le conseil de se préoccuper de ça, parce que... c'est pas le problème de toute façon. Non, je leur parlerai pas de ça du tout. Pas du tout. Là, c'est vraiment un petit épiphénomène qu'on décrit parce que vous me posez la question, mais...
On parlerait pas d'aspect extérieur du tout. On parlerait pas de ça, on parlerait pas de l'effet rendu.
On parlerait de rien du tout, d'ailleurs.
C'est très difficile, ça veut rien dire, donner des conseils, vous trouvez?
Ouais, ça veut pas dire grand-chose, oui. On les donne par transmission, on les donne... par l'exemple, je ne sais pas très bien ce que... Moi, j'aimerais bien qu'on me donne des conseils avant d'en donner moi-même.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a des metteurs en scène, maintenant, quand ils travaillent avec des actrices qu'ils admirent, ils sont intimidés, souvent ils n'osent pas assez donner des conseils, et vous vous en réclamez?
Moi, je n'en réclame pas beaucoup. Moins on m'en donne, mieux je me porte.
Ah ben, vous en vouliez il y a 5 minutes, vous n'en voulez plus.
Non, je ne vous ai jamais demandé de conseils. Puis vous n'êtes pas metteur en scène. Enfin, vous n'êtes pas mon metteur en scène.
Ah non, non, je ne vous parlais pas de conseils à moi. Non, non, j'essayais d'imaginer comment on travaillait. Parce que j'essaye de voir comment est-ce qu'on arrive à avoir des rapports si intimes avec des gens si différents, d'être à la fois l'égérie de Chabrol puis de Haneke. C'est quelque chose de complémentaire, comment on arrive à avoir des intimités avec des univers si différents?
Oui, c'est vrai, parce qu'il s'agit bien de ça. Mais c'est le cinéma qui fabrique l'intimité. C'est la caméra, c'est la... Non seulement ça la fabrique, mais ça la... c'est de l'intimité. Donc c'est comme ça que ça s'élabore, mais certainement pas en posant des questions et en demandant des réponses. Mais c'est un phénomène, un dispositif vraiment fort. La caméra, le regard, ça passe par le regard. Et le regard, c'est l'intérêt qu'on vous porte, c'est l'attention qu'on vous porte. Donc, voilà.
Sur un tournage, tout compte, l'atmosphère générale, le rapport avec les gens dehors de caméra, il y a une imprégnation.
Tout compte, absolument. Parce que le cinéma, c'est la capture de l'instant présent. Donc, tout compte, absolument. Le temps qu'il fait, l'état dans lequel on est, vraiment ce qu'on est au moment où on le fait. C'est vraiment de l'ici et maintenant. C'est pas avant, c'est pas après. C'est au moment où on le fait.
Alors, il y a beaucoup, moi, une chose que je ne comprends pas, c'est on dit que le cinéma, le théâtre, on joue pour le public, et au cinéma, on est censé jouer pour la caméra. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça existe vraiment ?
Ah non, non, moi, je ne fais aucune différence entre le cinéma et le théâtre. C'est exactement pareil. Non, on pourrait dire que le cinéma, c'est plus une confrontation avec soi-même. Voilà, et donc il suffit de décider que le théâtre, c'est pareil, finalement.
Mais une confrontation avec soi-même ?
Ah oui, bien sûr. Oui, oui, c'est une affirmation de soi, le cinéma. Théoriquement, à l'opposé du théâtre, parce que le théâtre, ça serait plus... on est dans des rôles, on est dans des textes, c'est plus difficile d'arriver à ça. Mais il suffit de le décider. Une fois qu'on l'a décidé, c'est aussi facile qu'au cinéma. De dire que, voilà, que ce qu'on joue, c'est soi au même titre qu'on le fait au cinéma, parce qu'au cinéma, c'est ça qu'on fait.
Et là, vous êtes dans un rôle un peu différent, un peu nouveau. Vous êtes en train de voyager pour le cinéma, de vous balader dans les films comme une sorte de... Alors, on cherchait le mot hier soir, globe-trotteur, ambassadeur. Quel serait le joli mot porteuse de valise du cinéma français Donc, comment ça s'appelle ce que vous faites? Vous rendez service, vous entraînez derrière vous les gens pour aller se balader dans le monde et montrer d'autres films?
Non, mais moi, ce n'est pas mon occupation principale. Hein. Je fais ce que...
Non, mais à ce moment-là, c'est gentil, c'était à vous emmener des délégations, comme c'est « allez, venez, on va ».
Non, c'est pas moi qui emmène la délégation cette année, je l'ai emmenée d'ailleurs l'année dernière, mais cette année, c'est Catherine Deneuve.
Donc vous partagez une année l'une, une année l'autre. Est-ce que dans chaque ville, vous allez... Hier, on est allé ensemble dans un bar qui vous rappelait des souvenirs, qui s'appelle La Jetée, vous aviez tourné une scène de Joseph Losey, de La Truite. Est-ce que vous avez des lieux de mémoire comme ça dans des villes?
Eh bien, quand je viens à Tokyo, oui, j'aime bien aller voir Tomoto à La Jetée, dans ce quartier... absolument extraordinaire, où il y a des tout petits bars, c'est comme des maisons de poupées. Et en plus, j'ai un souvenir. Alors, on sait que c'est là qu'a tourné, que Chris Marker y a tourné La Jetée. Et moi, j'y ai tourné aussi avec Joseph Losey, dans La Truite.
Il y a d'autres, si je vous dis des villes, il y a des lieux comme ça. Vous dites, tiens, si j'arrive à Rome, il faut que j'aille dans tel endroit, telle rue, tel restaurant, tel café, retrouver un souvenir de cinéma.
Alors, à Rome, il suffit de se promener dans les rues pour retrouver. C'est une ville qui est très 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 lié au cinéma, qui est très très cinématographique, qui est dans toutes les mémoires, donc pas un endroit en particulier. On arrive à Rome et on arrive Piazza Navona et on est dans
il y a quoi dans la Piazza Navona? L'Alagne, il y a quoi dans la Piazza Navona? Bon, la Fontaine de Trevi. Ah non, c'est dans la Fontaine de Trevi.
La Fontaine de Trevi.
Non, si, la Piazza Navona, il y a le dernier film là, de Sorrentino, puisqu'il y a l'appartement qui est juste au-dessus, comme ça, quand il laisse la nana toute seule face à son ordinateur. Est-ce que ces festivals, ces mouvements, tout ça, ça pousse à la boisson, Isabelle Huppert?
Ça pousse à la boisson
Les villes, le mouvement comme ça, est-ce qu'on est obligé, est-ce que c'est lié à l'alcool dans des dérives à la Guy Debord? Est-ce qu'on peut aborder une ville sans boire de vin ou sans boire d'alcool local?
Oh, tout est possible.
Mais
oui.
Ça serait dommage, parce que c'est vrai qu'il faut une petite ivresse,
il faut le Bellini à Venise, et le saké à Tokyo, et le, voilà, une petite ivresse, non, juste un plaisir comme ça, de goûter à quelque chose. Non, mais c'est pas une obligation.
Si.
Non.
Non, mais c'est une façon d'apprivoiser un peu. Ça devient moins inquiétant, une ville, quand même, dans un certain état. Sinon, c'est absolument inquiétant, Tokyo, non? C'est un mystère tel.
Édouard Baird, Isabelle Huppert.
Oui, qu'est-ce qui se passe?
Oui. On pourrait boire tous ensemble un coup pendant que Thierry fait les infos. Et
ah, c'est l'heure du journal
après.
C'est l'heure des infos?
Passer de quelques minutes après.
Ça vous intéresse, les infos françaises? Oui. On a envie d'entendre le mot François Bayrou qui manque énormément ici. Isabelle, vous étiez très proche de François Bayrou.
Je ne suis pas sûr de l'avoir. On va essayer.
Alors, c'est le journal. Thierry.
9,8 milliards. Nous serons 9,8 milliards d'individus dans le monde en 2050, dont François Bayrou. Ce sont des projections de l'ONU. L'ONU qui précise que l'Inde devrait dépasser la Chine d'ici 7 ans. Le Nigeria, qui connaît une croissance démographique très rapide, devrait supplanter les États-Unis en troisième position d'ici donc 2050. Et pour le moment, rappelons que nous ne sommes que 7,6 milliards. 15 hommes, 15 femmes, 20 ministres, 10 secrétaires d'État, ce sont les principales caractéristiques du gouvernement Philippe II. Jusqu'à présent ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard remplace Richard Ferrand à la cohésion des territoires. 15 ans après avoir été secrétaire d'État au budget sous Lionel Jospin, Florence Parly fait son retour au gouvernement. Elle remplace Sylvie Goulard aux armées. Haut fonctionnaire du Quai d'Orsay et présidente de l'ENA, Nathalie Loiseau remplace Marielle de Sarnez aux affaires européennes. Enfin, la juriste Nicole Belloubet remplace François Bayrou à la justice. Normalement, le Conseil des ministres, c'est le mercredi. Présentation du nouveau gouvernement oblige. Ce Conseil des ministres, il est exceptionnellement prévu aujourd'hui, ce matin, sur la table des ministres, sauf celle de François Bayrou du coup, notamment le projet de loi controversé antiterroriste. Le Conseil d'État a validé l'essentiel de ce projet censé remplacer l'état d'urgence. C'est tout un symbole qui part en fumée. La grande mosquée Al-Nouri et le minaret penché de Mossoul ont été détruits. Selon l'armée irakienne, ce sont les djihadistes de l'organisation État islamique qui l'ont fait sauter. Ces derniers accusent les États-Unis. Et pourquoi pas François Bayrou pendant qu'on y est. 67 départements sont encore en vigilance orange. La canicule va persister aujourd'hui sur la majeure partie du pays et des orages éclateront dans l'après-midi sur la moitié est et éventuellement la tête de François Bayrou aussi. En Ile-de-France, on notera que la circulation différenciée est mise en place dès ce matin. C'est-à-dire, vous savez, cette petite vignette critère, les numéros 1, 2, 3 ont le droit de rouler, au-delà on n'a plus le droit de rouler. L'Euro de basket féminin, donc a priori une équipe sans François Bayrou, l'équipe de France va rencontrer la Slovaquie ce soir en quart de finale. Et puis un mot, non pas de François Bayrou mais de la Coupe des Confédérations de football. Le Portugal a battu la Russie 1-0, le Mexique a battu la Nouvelle-Zélande 2-1, un match chaud bouillant à base de bagarre générale, notamment.
Merci Thierry Paret. Nous sommes impatients, avant qu'Isabelle Huppert ne parte, faire 15 interviews en japonais pour la promotion du film de Verhoeven, elle. On a envie de voir ce qui se passe dans la rue avec Jacques Souban.
Alors, on me fait signe que non.
Vous ne lancez non plus avec une sorte d'énergie folle. Hein.
Ah si, c'est bon. Jacques.
Moi j'écoute avec attention toutes ces pérégrinations japonaises. Ici c'est 40 degrés, déjà je sais pas, 35 degrés. Dans les rues, il faut savoir qu'ici à Paris, là, toutes les fenêtres sont ouvertes. Donc c'est impressionnant parce qu'on n'a aucun reflet de lumière sur les fenêtres, mais on a au contraire des espèces de gouffres comme ça de chaleur. Et donc il fait très très chaud.
Faites comme Jean Carmé, entrez par la fenêtre chez les gens, demandez un peu de pot-au-feu.
Ouais, je veux bien, mais là, il faudrait une paire des chasses, là, parce que je suis pas assez grand. Et je vous écoutais tout à l'heure sur la voix. Des fois, on dit ce qu'on pense. Et alors là, on aime bien sa voix, mais parfois, on n'entend pas ce qu'on pense. Et là, on aime moins sa voix. C'est vrai. Et je suis avec Zachary qui nous parle d'un manga. Donc là, c'était la petite chronique japonaise. Avec Zachary et le manga, et il nous parle d'Assassination Classroom. C'est donc un prof qui essaye de tuer ses... Non, des élèves qui essayent de tuer leur prof, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, c'est une espèce de créature qui a détruit la Lune et qui veut détruire la Terre. Mais pour ne pas la détruire, il dit qu'il va la détruire l'année prochaine. Et pour ça, il veut être prof d'une classe de collège, qui est une classe qui est un peu les plus nuls du collège, en fait. Et du coup, le gouvernement demande aux élèves d'essayer de tuer leur professeur pendant toute cette année pour pas qu'ils détruisent la Terre. Et
ça
voilà.
Oui, ça l'a bien. On est vraiment excités ici avec Isabelle Huppert. On en veut plus. Zachary, tu nous décris donc un manga qui te plaît. Est-ce que tu ne ferais pas mieux peut-être d'aller faire du sport?
Ah non, le sport, avec ce temps-là...
Aujourd'hui, il fait trop chaud.
Ah oui, il fait trop chaud.
Parce que je vois bien sûr derrière ce goût pour le massacre et les mangas hyper violents, sans doute un énorme appel au secours, Zachary.
Zachary?
Bah non, c'est pas hyper violent parce que au final ils s'attachent à leur professeur et voilà. Et c'est bien.
Il aide à détruire la Terre.
Non,
tu sais que même Mad Max et Bernard Lavillier aiment la porcelaine de Chine et collectionnent des bouquets de fleurs.
Moi, ce que je trouve bizarre dans cette histoire, c'est que le gouvernement ne tue pas le professeur lui-même, qui demande à une bande d'adolescents de le faire.
Non, en fait, ils essayent, mais comme le professeur se déplace à... C'est un espèce d'alien qui se déplace à Mach 20, ils n'y arrivent pas.
Ah, c'est pour ça. Ah oui.
Oh, tu vas pas nous emmerder longtemps. Zachary, merci mon vieux pour ce manga. Quand je pense qu'il faut que je téléphone à Paris pour additionner le manga, je vais être obligé de libérer Isabelle Huppert, qui va repartir. Isabelle, vous allez caler l'enchaînement de la journée.
Eh bien, là, je vais. Il y a Paul Verhoeven qui m'attend pour faire des interviews avec lui, parce que elle sort au Japon. Voilà.
Elle sort maintenant. Est-ce que vous avez déjà les réponses? Il suffit d'imposer les questions plus tard. Donnez-moi quelques réponses que vous allez donner. Je trouverai les questions qui vont avec.
Non, j'ai fait à peu près les mêmes réponses partout où j'ai présenté le film dans le monde, parce que c'était souvent les mêmes questions.
Alors justement, donnez-moi une réponse. Je dis la question après.
Je ne sais pas.
Alors la réponse, je ne sais pas, c'était mais est-ce que c'est un film qui pour vous est à la fois magnifie la femme ou au contraire est un film misogyne? Et là, vous venez de dire je ne sais pas.
Ah ben là, alors là, non, si vous m'aviez posé la question comme vous me la posez, non, j'ai tout à fait la réponse.
Alors
bon, vous la connaissez, la réponse.
Bon, c'est la meilleure réponse, et ça, c'est un vrai truc d'homme politique. Écoutez, la réponse vous appartient. Isabelle, merci, je vais vous raccompagner. Vous êtes accompagnée à la fois un monsieur qui nous photographie, un type qui filme le mec qui photographie, un assistant d'attaché de presse qui vérifie que le team ne filme pas le micro, pendant que deux responsables badgés sont en train de contrôler, plus toute ma sécurité qui est là. Mais merci Isabelle, je vous embrasse.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi? Ah, ah.
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
La country de Snoop Dogg. Alors, je ne sais pas si Snoop Dogg est encore Snoop Lion ou s'il a abandonné définitivement ce pseudonyme. Là-dessus, on retourne à Tokyo avec Edouard.
Il y a plein de pseudos aussi. Ici, on m'appelle le dragon blanc ou le maître de l'univers. Enfin, c'est surtout moi qui m'appelle comme ça, j'avoue. Peu de personnes ont relayé ce surnom. Je suis avec Isabelle Giordano, qui est une grande huile du Nuit France, qui amène les films à travers le monde, qui vérifie que les films voyagent, qui les fait découvrir. Isabelle, il y a combien de festivals Nuit France à travers le monde? C'est délirant.
Il y en a une dizaine environ, et on suit pratiquement 80 festivals tout au long de l'année. Des grands festivals internationaux, ça va de Toronto, Berlin, Cannes, bien sûr, qui est un moment très important pour nous. Et on va partout dans le monde, y compris en Afrique. C'est ça qui est intéressant, c'est d'être à la fois à Tokyo, à New York.
J'ai l'impression que c'est surtout une raison pour voyager quand on veut.
Non, c'est pas boulot. On voyage pas. Je veux dire, pour les films français, c'est très flagrant comme c'est important ici d'arriver tous ensemble, qu'ils soient accompagnés par les acteurs, les metteurs en scène. Combien de films français sortent au Japon, par exemple, dans une année?
Il y en a à peu près entre 40 et 50, suivant les années. La grande question qui nous préoccupe à Unifrance, c'est que les spectateurs pour les films français sont de moins en moins nombreux et de plus en plus vieux. Donc à ce rythme-là, on risque d'avoir personne qui viendra voir ouvert la nuit.
Oui, c'est dommage.
Et je voudrais faire passer un petit message. Je voudrais dire que dans ce festival que nous organisons cette année à Tokyo, le film qui a recueilli le plus d'entrées, de réservations sur Internet, c'est Ouvert la nuit. C'est un hasard, ça.
Ah, ça me fait plaisir, pardon.
Et je ne le dis pas parce qu'Edouard Baird est quelque part en face de moi, mais je suis très contente qu'Ouvert la nuit fasse partie des films qui ont obtenu le plus de réservations. Donc ça va être sold out, comme on dit en
français. C'est bien, je suis désolé de prendre en otage l'émission pour dire du bien de moi. Et j'envoie des photos de moi, là, vous allez voir que j'ai. Dites-moi, mais est-ce que. Alors vous dites que ça vieillit le public. Alors il y a plusieurs façons. On peut soit interdire les vieux d'y aller, mais ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux attirer les jeunes. Comment est-ce qu'on attire? C'est un phénomène mondial, de toute façon, que le public du cinéma vieillit?
C'est partout dans le monde, ça concerne essentiellement les films non américains et surtout les films français. Donc on peut, comme vous l'avez dit, soit interdire, soit tuer les vieux.
Oui. Sinon, soit mettre Vin Diesel dans tous les films, ce qui est une solution évidemment, un film d'auteur avec Vin Diesel qui traverse.
Sinon plus logiquement, c'est d'attirer les jeunes par toutes sortes de moyens, notamment en faisant de la publicité ou en ayant des actions envers les jeunes, communiquer sur les réseaux sociaux, travailler avec les universités, ce qu'on fait de plus en plus, organiser des masterclass comme on l'a fait hier avec Catherine Deneuve et Isabelle Huppert, avec des jeunes étudiants en cinéma. Aussi faire venir des chanteurs comme Vianney, c'est ce qu'on va faire ici à Tokyo, parce qu'on pense qu'il a un véritable pouvoir d'attraction sur les jeunes. Donc ça attire les gens vers la musique française et vers le cinéma français. Donc voilà, il y a plein d'actions qu'on mène. On le fait beaucoup aux États-Unis, mais on le fait aussi dans plein d'autres pays.
Oui, il y a toute une organisation. Vianney chante, ensuite il y a des chambres d'hôtel où il reçoit les Japonaises une par une. Enfin, Unifrance ne recule devant rien pour la promotion du cinéma français. Dites-moi un film surprise, un film français qui a beaucoup marché à l'étranger et on ne s'y attendait pas.
Demain tout commence, le film d'Hugo Gélin avec Omar Sy. Intouchable au Japon aussi, on ne s'y attendait pas du tout. Le film a eu beaucoup de mal à se vendre et puis il s'est finalement vendu. Parce qu'il faut savoir aussi qu'au Japon, les vendeurs ont entendu des réflexions au moment de vendre Intouchable. On leur disait, les Japonais n'aiment ni les Noirs ni les handicapés. Et puis finalement, Le film s'est vendu et le film a été un succès.
C'est bien, dans cette émission, on a dit tout à l'heure que les Chinois mangeaient du chien, les Japonais n'habitaient pas les handicapés. Bon, et là, on attend les réactions du public pour avoir des surprises.
C'est une émission sans langue de bois, on le sait bien.
Bien entendu, Isabelle, vous êtes superbe et souple. Je vous laisse continuer. Isabelle est dans les étages de cet hôtel, en train de pousser Isabelle Huppert chez deux journalistes japonais, de récupérer Catherine Deneuve chez un autre, d'empêcher tel acteur de boire. Enfin, c'est des activités magnifiques d'ambassadrice du cinéma. Merci, Isabelle.
Les films se vendent. On est là surtout pour que les films se vendent.
Les films doivent se vendre. Pour ça, faut-il les acheter. On va s'en occuper. Isabelle Giordano quitte l'établissement maintenant. Marie Misset, à Paris, tout va bien ?
Oui, on attend plus de gens superbes et souples dans les prochaines minutes. Il me semble que c'est la pub maintenant, malheureusement, Edouard. Il faut...
Ne dites pas malheureusement. Non. Vous savez, c'est ça.
Heureusement.
Savoir être heureux, c'est accepter le réel et s'en faire une joie.
Je m'en fais une joie. Alors, annonce. Je vais pouvoir aller boire de l'eau.
Oui. On ne peut pas éviter, il faut l'accueillir. Alors allez-y, dites-moi.
J'accueille la pub.
Très bien.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, plus près de toi. On va
plus près et plus loin, puisque Edouard Baird est toujours à Tokyo. C'est Red Aster Reaching Out to You. Et Edouard, tu nous disais hors antenne qu'à Tokyo, on nomme pas des kimonos dans les hôtels, mais des pyjamas tout entiers. En coton très
oui, enfin, on a mis à ma disposition, si vous voulez. Après, il faudra que vous racontiez un peu la fête de la musique. Donc ici, dans cet hôtel qui a été bâti dans les années 50 par Frank Lloyd Wright, il a été détruit plusieurs fois parce qu'il faut savoir qu'ici à Tokyo, on détruit les immeubles, tous les bâtiments, on reconstruit, tous les 30 ans, on reconstruit un bâtiment nouveau. C'est assez compliqué le système à Tokyo. Le sol sur lequel est bâti un bâtiment n'appartient pas au type qui est propriétaire du bâtiment. Donc on doit continuer à payer un loyer. Oui, oui.
On détruit vraiment tous les 30 ans les bâtiments.
Ah oui, oui, l'espérance de vie d'un bâtiment, c'est 30 ans. Alors il y a des petits quartiers qui sont comme des villages, des petites maisons individuelles qui restent, mais il n'y a pas du tout l'idée de classer les choses, de les sauvegarder. Donc si vous pouvez revenir dans Tokyo, tous les 30 ans, on redétruit. Ça fait travailler évidemment le secteur immobilier, la construction.
Et puis quand le bâtiment va, tout va.
Et puis, de toute façon, autant ne pas le laisser puisqu'il n'appartient pas à ses propriétaires. Il appartient au type à qui appartient le sol. Donc, ce n'est pas intéressant pour le type qui l'a fait bâtir. Et puis, ça permet de regagner quelques étages chaque année. Dans mon hôtel, hier soir, il y avait le Frank Sinatra Japanese Band, c'est-à-dire 15 musiciens japonais en smoking blanc avec un type habillé en cow-boy tout japonais qui reprenait des standards de Sinatra.
C'était beau. Je veux dire, ça aurait eu sa place dans la rue pendant la fête de la musique.
Entre étrange et beau, je ne saurais pas, mais vous savez, le beau est toujours bizarre, Marie Misset, comme disait Baudelaire, n'est-ce pas ? Alors, donc ici, je suis, il y a à la fois une jeune fille qui va me dire un poème, et j'ai aussi, parce qu'à mon étage, il y a des beautés en kimono qui sont là, qui sont chargées de s'occuper de nous.
Oui, d'ailleurs, j'ai entendu hors antenne, va me récupérer genre. Ces femmes de l'étage en kimono.
Non, c'était parce que Mademoiselle Hattori et Mademoiselle Treni qui sont là, vont nous dire un petit poème japonais.
Très bien.
Alors envoyez
le générique.
Le générique.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème. Baba.
Treni, vous avez un haïku pour nous ?
Samidare o atsumete hayashi Mogaminawa.
Voilà, c'était un haïku. Nous n'en aurons jamais la traduction et ça fait partie de la grâce de ce moment. À vous maintenant peut-être Hattori. Pour le moment, il n'a pas commencé, vous aurez compris. Alors là, il y a une recherche chez Hattori. Ai-je été à l'école ? De quoi je me rappelle de mes années scolaires ? Était-ce la peine ? Un joli moment où le poème ne vient pas, si le poème est encore dans le cœur ou dans le cerveau, il ne parvient pas jusqu'à le franchissement des lèvres qui nous permettrait de le... Alors, elle cherche son poème, elle continue à chercher. Pendant ce temps-là, une adolescente, Lila, qui est là, qui est au lycée français ici. Lila, tu es au lycée français, toi ?
Oui.
Tu fais du japonais combien d'heures par semaine ?
Ah non, en fait, je ne suis pas à Tokyo, en fait.
Tu es venue voir des amis ici, voilà. Et tu es en quelle classe ?
Quatrième, je vais.
On apprend encore des poésies en quatrième ? Oui. Alors, le dispositif poétique, Marie, il est extrêmement précis.
Puis il est international.
Il est intéressant. Donc, on a eu un haïku qui n'a pas été traduit de Treni. On ne saura jamais ce qu'il a voulu dire, à mon avis. Vous savez, les haïkus, on parle toujours d'une saison et d'une toute petite action. Pendant que Mademoiselle Hattori cherche son haïku tout en tremblement et en peur de l'avoir oublié, Lila va nous dire un poème. Qu'est-ce que c'est ?
De Victor Hugo, Demain dès l'aube.
Ah, c'est le fameux Demain dès l'aube.
À l'heure.
On va sur la tombe de sa fille. Très bien, tu vas très lentement, Lila, parce que sinon, je vais bien t'engueuler. J'étais très ami de Victor.
Demain, Dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fer. Victor Hugo, 1802-1885.
Alors, pardon, Lila, je pense que tu l'as très bien dit, mais je ne pense pas qu'il y ait le même enthousiasme quand Victor Hugo va sur le tombeau de sa fille. Je voudrais que tu... Quand il dit « j'irai par la forêt », il y a moi « tiens, c'est génial, on va passer en forêt ». J'irai par la forêt. Tu vois, je pense qu'il faut, que tu finisses tes phrases plus... Parce qu'il y a une montée comme ça vers le... l'enterrement, je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe. Mais c'était très bien quand même. On va lui mettre une note. Mettez-lui une note. Give a note. How much? Je demande à mon plus japonais. It was good? You liked it?
Yes.
Énorme enthousiasme japonais sur la poésie de Victor Hugo. Et juste avant de rendre l'antenne, je voudrais être sûr. Hattori, vous avez votre haïku?
Shizuke saya iwa nishimiru semi no koe.
Alors là, c'est ça. Ça dit à peu près tiens, tiens, tiens. Voilà l'enfant qui marche sur les débris du monde ancien. La neige parvient-elle à couvrir nos pas, ou est-ce que lorsqu'on remarche sur la neige, est-ce qu'on fait trace sur trace? Le blanc salit par l'être humain, est-ce encore du blanc? Que reste-t-il de notre pureté lorsqu'elle est souillée? Voilà, c'est à peu près ça ce que c'est. Je crois à peu près, mais c'est un peu plus long que ça, évidemment.
C'est oui, c'est encore une fois un peu réduit comme traduction.
C'est réduit. Merci à tous, Thierry Paret et Bérou.
Ça suffoque, ça sue, c'est la canicule. L'épisode va se poursuivre aujourd'hui. 67 départements restent en vigilance orange. Conséquence, la pollution en région parisienne. Et qui dit pollution dit restriction de circulation. Soyez attentifs, si vous disposez d'une vignette critère 1, 2 ou 3, vous avez le droit de circuler. Au-delà, il vous faudra vous reporter sur les transports en commun, le vélo ou le covoiturage. À propos de la chaleur, on notera cette initiative de certains chauffeurs de bus à Nantes, obligés de porter un pantalon. Ils ont protesté en portant une jupe hier. Il faut savoir qu'un employeur a le droit d'imposer une tenue vestimentaire lorsqu'on est en contact avec, avec des clients. La jupe est autorisée, contrairement au port du short ou du Bermuda. 15 hommes, 15 femmes.
Vous êtes habillés comment ?
Short, comme d'habitude.
Bah, comme d'hab, oui, Bermuda, comme d'habitude. Hein.
Pantacourt.
Été comme hiver, attention. Hein. Je m'y
tiens. Et dessous, il y a son tatouage diable.
Ah bah dessus, il n'y a rien. Dessous, il n'y a rien. Hein. Enfin, c'est normal. Ouais.
Ouais, c'est superbe. C'est un tout petit peu d'essence de Guerlain.
C'est ça. 15 hommes, 15 femmes, 20 ministres, 10 secrétaires d'État, ce sont les principales caractéristiques du gouvernement Philippe II. Alors jusqu'à présent, ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard remplace finalement Richard Ferrand à la cohésion des territoires. 15 ans après avoir été secrétaire d'État au budget sous Lionel Jospin, Florence Parly fait son retour au gouvernement. Elle remplace Sylvie Goulard aux armées. Aux fonctionnaires du Quai d'Orsay et présidente de l'ENA également, Nathalie Loiseau remplace Marielle de Sarnez aux affaires européennes. Et puis enfin la juriste Nicole Belloubet remplace François Bayrou à la justice. Alors normalement le conseil de ministres c'est le mercredi, là exceptionnellement c'est aujourd'hui, jeudi, hein, pour cause d'annonce du gouvernement hier bien sûr. Sur la table des ministres, notamment le projet de loi controversé antiterroriste. Le conseil d'État a validé l'essentiel de ce projet censé remplacer l'état d'urgence. C'est tout un symbole hein, qui part en fumée. La grande mosquée Al-Nouri et le minaret penché de Mossoul ont été détruits. Selon l'armée irakienne, ce sont les djihadistes de l'organisation État islamique qui l'ont fait sauter. Ces derniers accusent eux les États-Unis. Ce 22 juin, c'est la journée de sensibilisation aux dons d'organes. Rappelons la règle que peut-être peu connaissent. Nous sommes tous considérés comme donneurs, sauf à s'être inscrits sur le registre national des refus. 9,8 milliards, nous serons 9,8 milliards d'individus dans le monde en 2050. Ce sont des projections de l'ONU. L'ONU qui précise que l'Inde devrait dépasser la Chine d'ici 7 ans. Le Nigeria, qui connaît une croissance démographique très rapide, devrait supplanter les États-Unis en troisième position d'ici 2050. Et pour le moment, rappelons que nous ne sommes que 7,6 milliards. L'Euro de basket féminin. L'équipe de France va rencontrer la Slovaquie ce soir, c'est en quart de finale. Et puis un mot de la Coupe des Confédérations de football. Le Portugal a battu la Russie 1-0 et le Mexique a battu la Nouvelle-Zélande 2-1.
Sans rentrer dans le débat politique, ça n'est pas notre mission, on n'est pas là pour ça. Je voudrais juste dire que j'ai croisé François Bayrou il y a quelques années dans un piano bar à Lyon. On s'était mis au piano et nous avions entonné ensemble Atla, 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 les montagnards, les montagnards, Atla, 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 les montagnards sont là, les montagnards sont là, les montagnards sont là, sont des chansons pyrénéennes. Non, mais c'est vrai.
Ah oui, c'est
des chansons pyrénéennes. Et on avait enchaîné sur Aïe, 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 Pikachu, aïe, 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 beaucoup de chansons du sud-ouest.
Est-ce que tu es en mesure de dire qu'il est très sympa, comme on le dit souvent, des gens qu'on n'aime pas trop, mais que non, quand on les rencontre, on se dit en fait, c'est quelqu'un de vraiment gentil, en fait.
Oui, mais ça n'a pas d'intérêt parce que le bistrot rapproche trop les gens. On peut se retrouver peut-être après avec Jean-Marie Le Pen sur les épaules à une troisième mi-temps.
C'est vrai, il faut se méfier des sympathisations
des gens. Les bistrots, de manière générale, il faut se méfier.
Mais bon, mais j'ai passé. Voilà, je vous dis ça, c'est une pièce à rajouter au dossier. Jack, souvent ?
Oui, alors, on est bien là. J'ai rencontré quatre. J'ai rencontré Thomas, Victor, Pauline. Et Steven, bien sûr, qui était en terrasse et qui était en train de caresser les coquelicots. De...
Oula
ouais, de... Ah ouais, c'est un peu original.
C'est en fin de fête de la musique. Ouais.
Ça, c'est en fin de fête de la musique.
Exactement, vous avez tout compris.
Et alors le coquelicot, oui. Les vertus du coquelicot.
Les vertus du coquelicot, bah, c'est assez joli. Ça peut être, c'est assez doux. Ouais, Pauline a dit que ça pue, mais moi je trouve ça assez beau quand même.
Alors, il ne faut pas cueillir les coquelicots. Vous savez que l'espérance de vie d'un coquelicot cueilli, il se fane tout de suite. C'est une des rares fleurs qui ne peut pas être mise en bouquet.
Ben, c'est clair, ouais. Mais notre ami Steven nous en a cueilli, nous en a offert. Alors, ne te refusez pas, quoi.
Alors, moi, ça n'est pas encore mon ami, mais je suis prêt à aller très loin vers Steven pour essayer de transformer cette rencontre.
Il est prêt à aller très loin avec toi, Steven.
Non, mais pour transformer ce moment de radio en amitié, bien entendu, avec Thomas aussi, ainsi qu'avec Pauline. Moi, je suis pour cette fraternisation de post-fête de la musique. Caresseur de coquelicots, c'est un métier ou c'est une passion ou c'est un hasard ?
Oh, c'est pas vraiment une passion, ouais, un hasard, hein, mais c'est la beauté dans le hasard, quoi.
Mais bien sûr, c'est la beauté et le fruit du hasard, vous avez raison, ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais.
On est un peu poète sur les bords, vous avez remarqué.
Ouais, mais dès qu'on s'en aperçoit, on l'est plus, on est foutu. Et dis donc, alors, ce coquelicot, il a poussé où ?
Ce coquelicot, il a poussé au bois de Vincennes. Ah.
D'accord. Donc vous étiez là, vous sortiez d'une conférence de sociologie sûrement.
Le matin arrive. Tout à fait, ouais.
Le matin arrive, qu'est-ce qui reste ?
Bah c'est ça. Après tout le monde est parti, et nous on chope des coquelicots et puis on s'en va.
Est-ce que ce sont ces soirées qu'on n'arrive plus à terminer et il est 8h du matin et on se dit on va pas se quitter comme ça ?
Exactement. Et du coup ça finit au café Calva. Au bar.
Alors, c'est pas forcément une fin, ça peut être un redémarrage. Est-ce que tu te sens, Thomas, Steven ou Pauline, prêt à redémarrer cette journée comme un jour sans fin ?
Est-ce qu'on est prêt à redémarrer cette journée comme un jour sans fin ? Oh là là, c'est ce qu'on fait !
Mais ouais. Oui, Pauline m'a l'air très sur le coup. Pauline a déjà effacé la nuit précédente. Elle dit : qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Il est 8h du matin, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?
Bah, c'est ce qu'on se demande en même temps. Ouais. Pauline, elle a le coude sur la table et un petit peu en avant quand même. Hein.
Thomas, Steven et Pauline, est-ce que vous êtes affiliés à un emploi qui donnerait lieu à un impôt et à une fiscalité, ou est-ce que vous êtes désemployés, est-ce que vous êtes out of job, à la recherche d'un emploi ?
Oh, la question piège. Alors, il y en a qui sont employés, ouais. Moi, c'est pas mon cas, je suis encore un petit écolier, mais ouais, il y en a qui doivent payer des impôts ici, ouais.
Mais il y en a qui vont travailler, là.
Il y en a qui vont aller au bureau, là.
Aujourd'hui, non, personne ne travaille, je crois. Qui va au bureau, là ?
Et vous avez appelé pour dire que vous étiez malade ?
Demain. Non, mais personne ne m'attend aujourd'hui.
Très bien.
Mais dis donc, vous allez aller bosser, oui ?
Qui
va payer ma retraite ?
Ah, c'est jeune.
Tu vas aller au boulot, maintenant.
C'est jeune qui attend que je touche le chômage et le RSA.
Écoute-moi, tu vas faire ce que je vais dire. Tu vas prendre un café salé. Tu vas aller te faire dégobiller. Ensuite, tu vas prendre deux Doliprane. Tu vas prendre une douche froide. Tu vas me foutre une petite liquette un petit peu chic, un peu propre. Tu vas changer de chaussettes. Puis tu vas aller au boulot. Puis tu vas aller payer ma retraite. Ça, je te le dis.
Ouais. On va faire comme ça, ouais.
Et puis tu vas aller replanter ces coquelicots dans le champ d'où tu les as tirés. C'est pas possible. Ouais, Jack, bon. tenez vos gars le matin.
Moi, je trouve que les coquelicots, ils ont c'est quand même un peu des ailes de papillon. Donc je vais les relancer dans le.
Non, oui, c'est vachement sympa quand même. Parce que c'est vrai qu'on a trouvé ces coquelicots. On s'est dit que franchement, ça illuminait vraiment notre journée. C'est vrai que, non, mais c'est une espèce de coquelicot super rare parce qu'en fait, ils sont dotés de pétales rouges. Alors. On n'a pas l'habitude d'en voir en région parisienne, mais ils sont là.
Marie,
oui,
on arrête
non,
tout ça.
Non, oui, on est obligé
tout le monde
d'arrêter.
Au boulot, salut.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ? Ah.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
7h, 9h, plus près de toi.
En attendant Catherine Deneuve à Tokyo, Rudy à Boab. à Paris qui nous disait hors antenne.
J'ai toujours rêvé d'être Catherine Deneuve.
Il a dit
ça. C'était un disque de qui ça? C'est une chanson de quelqu'un, non?
Je vais la composer d'ici lundi prochain et parce peut-être que pour la dernière, je l'interpréterai.
D'être une hôtesse de l'air aussi, d'avoir les fesses en l'air, ça c'était du tronc. Mais Rudy, c'est bientôt, dis donc, on finit bientôt en beauté là, puisqu'aujourd'hui vous avez Kezia Jones qui est en train de répéter.
C'est le 70e live artiste que nous recevons sous cette verrière cette année, Edouard.
Ça ne nous rajeunit pas.
Ça ne nous rajeunit pas, 70 ans, mais écoute.
Il vous a trouvé 70 artistes, 70 coups de fil à des maisons, disques, à les rassurer, à dire ne vous inquiétez pas, le son est bon, on ne va pas embêter vos artistes. Qu'est-ce qui a été le plus émouvant pour toi dans l'année à recevoir et le plus difficile?
Il y a plein de beaux souvenirs, mais là.
Raïm Maalouf qui nous fait nous allonger tous par terre.
Exactement.
Calypso Rose,
exactement. Bon, ben,
incroyable. Puis toute la séquence jamaïcaine a été incroyable aussi.
Toute la séquence jamaïcaine a été absolument splendide. Et puis je me rappelle qu'à l'ouverture, on ne savait pas trop où on allait. On voulait mettre de la musique sous cette verrière. On voulait réveiller les auditeurs en musique. Et les deux filles qui avaient ouvert la saison dès la première étaient Al-Sara, qui était venue sans The New Batons, qu'on ne savait pas trop techniquement ce qu'on pouvait faire. Elle nous avait fait un superbe morceau a cappella. Et puis on termine lundi. On a demandé à Camélia Jordana de revenir avec son nouveau projet qui s'appelle Lost, qui pareil était venu nous le présenter en méga super avant-première, parce que rien n'avait encore été filtré, la maison de disques n'avait pas prévu de sortir tout de suite le morceau. Elle était venue il y a quelques mois nous interpréter un morceau.
Alors lundi, voilà. Donc on fait l'émission en public, hein, vous pouvez venir.
Voilà, venez
toi
tous.
Qui écoutes, viens, venez, c'est la dernière lundi.
Exactement.
On arrête un petit peu avant les autres pour des raisons personnelles. Mais... non, parce que je repars tourner à Nyon, c'est compliqué après. Donc lundi, grande émission, des chanteurs, des trucs, du nu, de l'habillé.
Il y aura des jongles. Des jongleurs.
Des cracheurs de feu, des échassiers. C'est lundi à Nova, je crois qu'en appelant ou en allant sur le site, on dit qu'on vient et on peut venir, je crois. Et Eugénie m'écrit un truc en même temps. Quoi là? Mais dis-le-moi, arrête de faire... Il y a plein de groupes, il y a plein de gens. Et puis, comme on dit dans les radios FM, plein de surprises, avec plein de surprises, des t-shirts à gagner. Voilà, ça c'est lundi.
Je vais essayer de trouver un thé vert pour Kezia Jones.
Très bien.
Allez-y, allez faire votre balance. Nous, on se retrouve dans quelques minutes ici, Paris-Tokyo, l'Axe 2017.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
On comprend pas tout, mais c'est bien. Oh, fuck you, can't even sing. Plus près de toi.
Odibi qui nous parle depuis l'au-delà, Edouard Baird qui nous parle depuis Tokyo, Jack souvent depuis la rue, et on a rajouté une branche à ce grand arbre, puisqu'il y a Bouchta qui est à Marseille, qui est avec nous.
Qu'est-ce que le dépaysement, c'est
oui.
Ça
Allô.
Est-ce que c'est être perdu dans une rue de Tokyo? Est-ce que c'est parler à un type dans une tour à Marseille? Est-ce que c'est de marcher dans Paris entre la fête de la musique et la gueule de bois? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe à Marseille en ce moment, Bouchta?
Bonjour, ça va mon bébé? Eh bien, un prisonnier a voulu partir hier.
Il a voulu partir de où? Des Baumettes?
Des Baumettes, oui. Il s'est échappé comme une taupe, il est passé sous terre. Et le dernier mur, parce que le mur, ils l'ont fabriqué avant l'Allemagne. Alors, il n'arrivait pas à passer le dernier mur, miskin. Oh! Il a fait comme l'Alcatraz.
Et tout le monde suivait les... Donc, tout Marseille était en train de suivre l'évasion de ce type qui s'est retrouvé bloqué.
Non, il a mis dans le journal, il a marqué... Un mec des Baumettes, il a fait comme la top, la nuit, il creusait, le jour, il faisait espèce de jouer au domino.
Donc ça, Bouchta, ça t'a fait quoi? Ça t'a fait ta soirée? Ça t'a empêché de descendre pour la fête de la musique? Il y avait quoi pour la fête de la musique à Marseille?
Ah ben c'est moi qui ai fait la fête de la musique, moi je l'ai fait devant ma porte. Quand je vais aller jusqu'au centre-ville, moi je vais aller danser Dalida. Non, c'est bon.
Oui. Tu as besoin de personne pour t'ennuyer, en fait. On arrive très bien à s'ennuyer tout seul, on n'a pas besoin des autres.
Non, je ne me suis pas ennuyé. En ce moment, c'est moi qui ai la menace de revue. C'est moi qui amène tout le monde. C'est moi qui fais le ramadan. Tout le monde est devant la porte et j'organise. Alors que ça fait, l'autre la quiche, pas la quiche. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Il faut la réunion autour de moi, comme le Sénat, mais de la nourriture.
Mais vous savez tout faire.
Une petite question de Catherine Deneuve qui est très intéressée par ce que tu organises à Marseille.
Ah, Catherine Deneuve.
Vous savez tout faire.
Bonjour, oui.
Vous jouez la musique, les instruments, vous chantez, c'est formidable.
Il faut, mais en tout cas, on s'est croisé, Catherine, une fois.
Ah, c'est bien possible, oui.
Oui,
pas à
on
Marseille.
S'est Non, non, à Paris, ma belle. Oh, Catherine de Neve, j'ai pas dit Catherine d'occasion.
Oh, excellent, très frais cette plaisanterie.
Vous croyez que c'est la première fois?
Vous êtes croisée, Mouchta?
Oui, ma chérie. Oui.
Qui est ta chérie?
Moi, moi. J'ai entendu Catherine.
C'est moi la chérie.
Oui, c'est elle. Toi,
c'est pas
que
moi la chérie, mais oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui se passe, Mouchta? Donc, tu
es au Ventoux, toi? J'ai entendu parler, tu es au Ventoux.
Qui est au Ventoux? Moi? Non, je suis rentré, là on est à Tokyo, tu ne suis pas du tout l'actualité de l'émission. On était à un festival à Tokyo de cinéma, et là ce matin on est avec Catherine Deneuve. J'ai l'impression que tu as plusieurs années de retard, tu es encore dans les années Ventoux.
D'accord, ok. À tous les cas, il y a Mélenchon, il a gagné à Marseille.
Oui.
T'as vu ça?
Qu'est-ce que tu en penses?
Eh ben, je suis content, hein. Il est mieux que le mage merde de Minucci, c'est un fou lui.
Ah bon?
Non, je préfère l'autre, il vient de chez vous et il connaît un peu plus de choses. Bon, écoute, qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Mélenchon, elle est passée. Ah, sa femme, Saïda, la femme de Mélenchon.
Oui.
Tu la connais?
Pas personnellement.
Ah, c'est elle qui a joué d'Aïcha 3.
Non, elle est bien, elle est bien.
Elle joue bien, hein, c'était l'ex-femme à Gérard Jugnot.
Ah bon, elle a plusieurs maris, ça me choque un peu, moi. Excuse-moi, je suis un peu vieux jeu.
Elle est maghrébine, hein. Elle a appris. Donc
c'est une femme de goût, en tout cas, Gérard Jugnot, Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'on appelle un goût très sûr.
Elle prend toujours 1m35, 45, les bras levés. Elle prend toujours le même texte, elle est petite, elle. Elle est petite, mais elle joue bien.
Je vais enquêter sur toutes les réponses que tu nous as données, sur la politique, la fête de la musique, le ramadan, Catherine Deneuve. Il y a eu trop d'informations pour moi en 3 minutes. Je suis obligé de digérer tout ça. On t'embrasse, Mouchta.
On t'embrasse, là, Catherine Deneuve. Il paraît qu'elle est kabyle. Elle est kabyle?
Elle est kabyle, Catherine Deneuve? Non, je ne crois pas du tout.
Non, j'aimerais bien, mais non.
Vous la proposez?
Ah, ben, je sais pas, les kabyles, on dit, c'est la famille.
Non, elle n'y a pensé, comme tout le monde en a pensé à un moment donné.
C'est une kabyle comme Adjani, c'est pour ça qu'elle est belle.
Les tentations kabyles, il y en a beaucoup, bien entendu. On a beaucoup essayé de choses dans le monde du cinéma, mais pas jusqu'à changer entièrement d'origine. Mais merci à toi, Mouchta.
Allez, bisous, je vous embrasse.
Une entrée en fanfare, Catherine, reste avec nous. Merci, Mouchta. On raccroche. Catherine, bonjour, Catherine.
Bonjour.
Catherine Deneuve est projetée de suite d'hôtel en suite d'hôtel. Dans là, il y a des journalistes japonais qui lui demandent « Dites-moi, est-ce que c'est difficile, votre dernier rôle ?» Il y en a un autre qui dit « Qu'est-ce que c'est qu'être sage-femme ?» Et tout à coup, vous entrez ici, on vous passe Mouchta. Ça fait partie, c'est quoi? C'est la suite de...
Ça vous ramène à la France, Paris, Marseille. Tout mélangé, n'importe quoi, beaucoup d'esprit, des choses drôles, quoi.
Mais là, il y a quand même, il y a un truc. Moi, j'avais déjà fait des interviews japonais. C'est très ritualisé, c'est traduit.
D'autant plus que c'est traduit, donc évidemment, ça donne tout de suite un autre rythme.
Donc, vous attendez la traduction. Il y a toujours le petit regard qui s'égare parce que quand il y a une question japonaise.
Le problème, c'est quand c'est à la télévision, parce que quand on traduit à la télévision, il faut attendre quand même le temps de la traduction. Donc, on a l'air de s'intéresser beaucoup à ce que la traductrice va. On espère qu'elle traduit ce qu'on a dit, mais oui, il y a toujours ce petit moment qui est un moment de flottement qui se.
L'œil. Est-ce que vous avez des repères de langage au Japon? Vous dites, tiens, là, il est en train de parler de ça, ou aucun? Est-ce qu'il y a des sonorités? Vous dites, ah, on est en train de dire ça.
De temps en temps, peut-être une syllabe comme ça, mais pas plus. Hein.
Un truc en ou en o?
Oui, ou boshi-boshi.
Et là, ça veut dire quoi?
Ça veut dire allô, allô.
Il y a très rarement dans les interviews un mec qui dit allô.
Il y a des gens qui disent allô des fois. Quand ils n'entendent pas, ils disent allô.
Ah bon?
Ah oui, les gens n'entendent pas très bien, vous n'avez pas remarqué? Ils disent pas quoi? Ils disent allô?
Ah, des journalistes japonais qui vous savent, on dit pas moshi moshi?
Ah oh ben non, mais je parlais pas des japonais, je parlais en général.
Est-ce que vous êtes comme les chanteurs de rock qui, quand ils chantent dans une ville, ils ont un mot pour chaque ville? Bonjour Besançon, ça va ici? Ça va Montélimar? Toujours des nougats? Est-ce que quand vous arrivez dans une ville étrangère, vous avez un mot qui fait plaisir aux journalistes?
Non, pas forcément, ça se présente pas forcément comme ça. Non, je n'ai pas d'élan comme ça vers... Non.
Si vous deviez être un tout petit peu démagogue au Japon, vous diriez quoi pour leur faire plaisir?
J'essaierai de trouver quand même un peu plus que bonjour, merci, je suis contente d'être ici. Bon, j'apprendrai donc une phrase un petit peu plus longue, un petit peu plus construite, mais c'est tout, voilà.
Parce qu'en France, quand les gens viennent, ils disent, voilà, ils disent un type d'un joueur de foot, ça nous flatte. Vous ne connaissez pas un champion de sumo ici, donc vous pourriez dire du bien?
Non. Je pourrais donner des noms de cinéastes éventuellement, ouais. Mais pas des noms de. Non.
C'est votre côté non Chirac, vous n'êtes pas Chirac.
Non, il faut inviter Chirac pour ça, oui.
Il a annulé. Dites-moi des cinéastes d'aujourd'hui japonais que vous suivez.
Mais qu'est-ce que c'est que cette question piège?
C'est parce que c'est vous qui m'a dit que je pourrais dire des cinéastes.
Oui, mais j'aurais jamais dit.
Moi, je ne pouvais plus voir des films japonais. Non, on ne le voit pas.
Si, moi, je vois beaucoup de films, des films japonais, des films asiatiques d'ailleurs en général. Je vois des films coréens aussi, des films chinois. Et qui je citerai ici, Kurosawa, Koreeda...
C'était pas de piège du tout, c'était vraiment, je voulais savoir. Je voulais le noter pour aller voir des films. On me cultivait grâce à vous.
On a du mal à retenir, malheureusement, les noms de. Même des films qu'on a aimés, des films asiatiques qu'on a aimés, c'est difficile.
On est à la télé en même temps. Allez, poussez-vous un peu, il y a l'équipe du quotidien qui vous suit, donc on n'a plus, plus cette intimité.
Ils sont là pour moi, ils sont là pour un jour et demi, m'ont dit.
Mais si, c'est que vous, je crois, qui les intéressez. Si.
Bah non, j'aurais été prévenu quand même. Moi, je les ai découverts en sortant de l'ascenseur.
Moi aussi, tout à coup, pendant qu'on vous parle, il y a des caméras, il y a des gens, quelqu'un est en train de me masser, Catherine Deneuve est en train d'être pédicurée par une deuxième équipe.
J'aimerais bien avoir un massage des pieds, là, oui.
Il y a plein de raffinements comme ça. Il faut qu'on recommence.
Oui. Je peux dire un mot à Madame Catherine Deneuve?
Plusieurs.
Et vous pouvez, Thierry Paré, qui est notre journaliste à Paris. Oui.
Catherine?
Thierry Paré.
Catherine?
Oui, bonjour.
Oui, bon, non, mais c'est tout. Je voulais juste pouvoir dire plus tard, je vous ai parlé. En fait, c'était juste pour ça, pardon.
Ben oui, bonjour.
Comme ça,
bonjour,
c'est fait. Je vous ai appelé par votre prénom en plus, hein, c'est génial.
Oui, alors moi, je dis bonjour Thierry, c'est ça?
C'est voilà. Ça, on est pas mal, on est bien.
Peut-être que Thierry, tu pourrais dire quelque chose.
C'est ça qui est un peu décevant. Oui, c'est ça. En fait, ça n'était que ça. Vous avez juste dit ça. Vous êtes arrivé, vous avez franchi les obstacles, vous avez franchi la sécurité. Maintenant, c'est vous vrai. Êtes là devant vous.
Mais là, je suis plaqué au sol par deux personnes ici. Hein.
Oui, c'est aussi ça, notre sécurité.
Ce qui est incroyable, c'est que ça ne vous empêchera pas de faire les infos,
Thierry. En plus. En plus.
En étant plaqué au sol.
Rien ne m'arrêtera.
Ah, il y a le journal.
Oui, c'était ça.
Nous sommes 7,6 milliards sur Terre. Nous serons 9,8 milliards en 2050. Ce sont des projections de l'ONU. L'ONU qui précise que l'Inde devrait dépasser la Chine d'ici 7 ans. Le Nigeria, qui connaît une croissance démographique très rapide, devrait supplanter les États-Unis en troisième position d'ici 2050. Demain, les températures devraient commencer à baisser un peu, mais pas de répit aujourd'hui. La canicule va se poursuivre. 67 départements restent en vigilance orange. Conséquence, la pollution en région parisienne. Et qui dit pollution dit restriction de circulation. Alors si vous disposez d'une vignette critère 1, 2 ou 3, vous avez le droit de circuler. Au-dessus, c'est interdit. 15 hommes, 15 femmes, 20 ministres et 10 secrétaires d'État. Ce sont les principales caractéristiques du gouvernement Philippe II. Jusqu'à présent, ministre de l'Agriculture, Jacques Mézard remplace Richard Ferrand à la cohésion des territoires. 15 ans après avoir été secrétaire d'État au budget, c'était sous Lionel Jospin, Florence Parly fait son retour au gouvernement. Elle remplace Sylvie Goulard aux armées. Aux fonctionnaires du Quai d'Orsay et présidente de l'ENA, Nathalie Loiseau remplace Marielle de Sarnez aux affaires européennes. Et enfin, la juriste Nicole Belloubet remplace François Bayrou à la justice. Normalement, le Conseil des ministres, c'est le mercredi, mais présentation du nouveau gouvernement oblige. Ce Conseil des ministres, il est exceptionnellement prévu ce matin et sur la table des ministres, notamment le projet de loi controversé antiterroriste. Le Conseil d'État a validé l'essentiel de ce projet censé remplacer l'état d'urgence. La grande mosquée Al-Nouri et le minaret penché de Mossoul ont été détruits selon l'armée irakienne. Ce sont les djihadistes de l'organisation État islamique qui l'ont fait sauter, mais ces derniers accusent, eux, les États-Unis. Ce 22 juin, c'est la journée de sensibilisation au don d'organes. Rappelons la règle que peut-être peu connaissent. Nous sommes tous considérés comme donneurs, sauf à être inscrits sur le registre national des refus. Le commerce sur Internet d'objets en ivoire et d'animaux vivants a fortement baissé en France sur un an, grâce à une réglementation plus stricte et une veille associative. Donc en un an, le nombre d'annonces litigieuses a chuté de près de 70%, passant d'un pic de 144 en juillet 2016 à seulement 45 en février dernier. L'Euro de basket féminin. L'équipe de France va rencontrer la Slovaquie ce jeudi en quart de finale. Et puis un mot de la Coupe des Confédérations, c'est du football. Le Portugal a battu la Russie 1-0 et le Mexique a battu la Nouvelle-Zélande 2-1. Un match chaud bouillant à base de bagarres générales notamment. Enfin bref, sport quoi.
Merci Thierry Paré. Toujours ici en duplex, on est là, Catherine Deneuve et moi, sur ce vieux sofa fatigué qui en a vu. Et ce coup de l'équipe de basket féminin slovaque, je vous ai senti sous le choc, Catherine.
Ah oui, j'étais atterrée, oui. Avec cette chaleur, vous vous rendez compte?
Vous êtes très, très proche des Slovaques, des équipes de basket, vous leur écrivez, vous les soutenez.
Je suis fan absolu, oui, absolument.
Moi, j'ai des questions, je voulais qu'on reparte à la base, des vraies questions que les gens ne se posent plus. Ça consiste en quoi être actrice de cinéma?
Voilà une question à laquelle je ne m'attendais pas. Ça consiste en quoi? Être ouvert, disponible, en pleine forme, un peu comme les sportifs.
Être prêt au bon moment. Hier, il y avait toute une masterclass. Et j'y ai pas assisté, j'ai pas eu droit, j'étais bloqué dans des bars. Mais tout le monde m'a dit que c'était incroyable, qu'il y avait plein d'étudiants et des questions qui revenaient, c'était autour du temps et de la patience.
Oui, parce que c'est vrai que moi, j'en ai parlé. C'est moi qui ai abordé le. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir de la patience parce qu'il y a une autre notion du temps. Quand on tourne, finalement, on est présent une dizaine d'heures pour très peu de minutes effectifs de tournage utile.
Donc le métier consiste en fait à se mettre dans une certaine atmosphère?
Oui, à se mettre dans un certain état et d'attendre et de garder son énergie, de s'intéresser à ce qu'on fait et surtout à ce que font les autres.
C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de entre action et coupé, quoi. Vous restez dans l'atmosphère générale du film, à regarder.
Oui. À regarder, à rêvasser, à être dans un certain état d'attente, quoi. Oui, comme quelqu'un qui attend le compte à rebours.
Il y a un compte à rebours et puis tout à coup. Est-ce que c'est
dans les scènes, mais des fois, oui.
C'est émouvant de regarder un metteur en scène travailler.
Émouvant, je ne sais pas, mais je trouve ça souvent intéressant, oui.
Vous aviez dit aussi que vous vous méfiez des metteurs en scène qui ne travaillent plus avec les mêmes équipes, que ce n'est pas très bon signe quand un film à l'autre, ce n'est plus la même équipe.
C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des metteurs en scène qui changeaient d'équipe à chaque film, parce qu'on peut imaginer au bout d'un moment quand même que ce sont les techniciens qui ne veulent plus travailler avec cette personne.
Pourtant, il y a des techniciens qui aiment bien le sadisme, non ? Qui aiment bien être sadisés.
Sadiser, c'est une chose, mais avoir des relations très, très difficiles, travailler avec quelqu'un qui ne... Je sais pas, je pense qu'il y a des metteurs en scène qui doivent être décourageants pour les techniciens.
C'est-à-dire, c'est tellement décevant, la fin ? Est-ce que c'est très loin de ce qu'on... Est-ce que c'est souvent très loin de ce qu'on pensait, un film ?
Je pense que ça peut être ça, oui. Je pense qu'il y a des techniciens qui se disent que non, franchement, ça ne vaut pas la peine, la vie est quand même trop courte.
Alors, dans la vie, c'est pareil, là, vous entrez dans une file d'hôtel, on vous dit, tiens, il y a Edouard qui veut vous poser des questions, et finalement, ça n'était que ça.
Non, pas vraiment, non. Non, je ne peux pas dire ça. Non, je ne me dis pas vraiment ça, non.
Moi, je suis dans l'auto-jugement tout le temps. Vous avez lâché prise là-dessus ?
Oui. Oh là là, oui, heureusement.
Donnez-moi un cours de lâcher prise.
Je vais ronfler, si vous voulez, dans 2 secondes.
C'est vrai, vous pourriez vous endormir. Il y a des maîtres du théâtre japonais, Yoshi Oida, qui joue dans mon film. Ils s'endormaient sur scène pendant le Mahabharata.
Je pense pas. Ah oui, c'est très long, le Mahabharata. Mais je ne pense pas quand même que je pourrais dormir sur scène. Mais en tous les cas, je peux somnoler, dormir en attendant de tourner, oui, très facilement.
Et pendant, non, il n'y a pas de... Est-ce que action veut dire action, dormez ? Non, ça, c'est plus un truc
d'hypnose. Dormez, je le veux ? Non, ça ne marche pas comme ça, non.
Et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour vous ? Est-ce que vous aimez être surpris ? Quelqu'un qui dit, tiens, j'ai envie que vous jouiez, par exemple, je fais un film sur De Gaulle, pour moi, c'est vous, De Gaulle. La conviction d'un metteur en scène, elle est... Parce que Noiret, il m'avait dit ça, que celui qui aimerait quelqu'un lui dise, j'avais fait un biopic sur Marilyn Monroe, j'ai envie que ce soit vous.
Je pensais que ce serait l'inverse, vous voyez, moi, un biopic sur Marilyn et Philippe sur De Gaulle. Mais pourquoi pas, après tout, vous avez raison. Si quelqu'un est très convaincant, ça peut marcher, oui.
Donc, Catherine Deneuve en De Gaulle, et puis là, elle doit partir. Pendant qu'on parle, ce qui est extraordinaire, c'est là où vous avez la patience. Il y a 200 personnes qui nous font des signes, qui vont de gentiment, soyez gentil, emmenez Catherine Deneuve, jusqu'à espèce de con, tu vas la laisser partir ou je te pète la gueule. Ce qui, en japonais, se traduit par oh ! Dites-moi en japonais ce que vous êtes en train de dire. Quand on dit Catherine Deneuve vient, ça se dit comment en japonais ?
Catherine Deneuve, ikimasu !
Alors ça, c'est un ton très aimable en japonais. Oui.
Ikimasu.
Il y a tout à une arrivée d'Espagnol à l'époque Edo.
Ah oui.
Oui, c'est très connu. Le Japon était fermé aux étrangers.
Quelle culture !
Je dis n'importe quoi. Hein. Je vous embrasse très fort.
Salut.
Il n'y a pas un mot de vrai. Voilà, pas un mot de vrai, c'est le titre de cette film. Merci à Yves Lecoq pour cette invitation.
Et Jack, on est avec Jack souvent dans la rue. Je m'y attendais pas, mais on est avec Jack souvent dans la rue.
Ben oui, moi non plus. Allô ?
Oui, je suis là.
Jack.
Oui.
Alors, Catherine vient de repartir pour ses obligations japonaises. Vous êtes toujours avec nous, vous n'avez pas d'obligation ?
Non, j'ai pas d'obligation, je suis bien avec vous. Je suis devant le... Alors, c'est un peu étonnant ce qui se passe ici. Il y a des hommes qui sont en jupe, mais c'est pas des Nantais. On est devant l'hôpital Bégin militaire. Il y a des hommes, il y a des sacs de sable de 2 mètres de haut avec des hommes en mitraillette derrière. Il y a un mec en dreadlocks avec des lunettes qui est en train de couper l'herbe derrière. C'est très étrange. Et donc il faut ouvrir ses sacs et tout. Moi je peux pas rentrer. Je suis avec
Raphaël. Vous pourriez demander ouais. D'où vient l'expression c'est l'hôpital qui se fout de la charité puisque vous êtes devant un hôpital.
Mais je sais pas, je n'ose pas là, parce que là il y a une grille. Il faut ouvrir son manteau, présenter une pièce d'identité, ouvrir ses sacs. Et il fait des bérets verts derrière, il rigole pas. Par contre,
ne mettez pas de sac à main, vous l'avez dit, d'arrêter le port du sac à main pour hommes en 2017, Jack.
Non, mais ce qui est le plus drôle, c'est le mec en dreadlock derrière, qui est vraiment, on dirait vraiment un chanteur de reggae qui est en train de couper, vous savez, avec une comment ça s'appelle, la machine avec le fil pour couper l'herbe, là. Rotofil. Voilà, et c'est Raphaël. Raphaël, lui, il attendait, il n'osait pas rentrer ou quoi. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là, il dit, je vais chercher des croissants, parce que je vais vendre du matériel pour les médecins, c'est du matériel orthopédique et moi je présente tous ces produits-là et ensuite à eux de faire les prescriptions auprès des patients et d'améliorer leur confort au quotidien.
C'est vrai
qu'il y a une nouvelle ceinture lombaire.
Ah oui ?
Il y a une nouvelle ceinture lombaire et donc du coup moi je fais cette présentation-là et ensuite au médecin d'aller prescrire tout ça. Allô ?
Bonjour Raphaël, je vois que vous êtes spécialisé en objets orthopédiques, l'orthopédie qui monte jusqu'au dos, puisqu'on sait bien que le pied prend source dans le dos. Vous parlez de nouvelles ceintures lombaires. Qu'est-ce qu'on va faire de l'ancienne ceinture lombaire qu'on nous avait fait acheter il y a quelques années, Raphaël ?
Eh ben, il faut la garder, hein, parce qu'elle est toujours efficace, hein, c'est pas le problème. Par contre, les nouvelles améliorent le confort des patients et donc leur observance, et donc forcément, les patients sont plus joyeux une fois qu'ils la portent.
Raphaël, je vous suis, je vous entends bien. Il y a donc cette nouvelle ceinture lombaire qui est meilleure que la précédente. Qu'est-ce qui me dit que dans 3 ans, vous n'allez pas me sortir une nouvelle ceinture lombaire qui va rendre obsolète celle que vous nous proposez aujourd'hui comme étant nouvelle ?
Mais elles ne sont pas obsolètes. C'est ça, tout le travail qu'on présente, c'est que chaque ceinture peut être utilisée à vie et puis... Il n'y aura pas d'obsolescence.
Je comprends bien, Raphaël, mais je ne vais pas avoir chez moi 3-4 ceintures lombaires différentes.
Il faut en avoir, Raphaël. Oui. On va vous laisser parler ceintures lombaires hors antenne. on va enchaîner sur autre chose. Même si c'est bien, si l'obsolescence programmée des ceintures lombaires, ça m'intéresse aussi.
On continuera, Raphaël.
Mais Jean-Michel Autoniel est arrivé avec nous, il est en studio.
Il est là.
Il nous faut un peu de temps pour l'interviewer.
Salut Jean-Michel Autoniel et on reparlera ceinture lombaire après. Salut.
Tout s'accélère entre Paris et Tokyo alors que Catherine Deneuve a été rattrapée par un staff japonais qui lui tirait sur sa jupe pour l'amener ailleurs, alors qu'un type continue à vanter des ceintures lombaires plus ou moins modernes. Jean-Michel Autoniel, c'est cette jeune gloire de la contemporanéité. Allez, je me suis lancé dans un mot que je
ne sais pas. Oui, en japonais, c'est mieux. Hein,
ben il est là, Marie Missy, vous êtes Jean-Michel Autoniel, oui. Parce que son exposition A7, j'imagine, à Montpellier, cette exposition, est-ce qu'elle est au Miam Miam d'ailleurs chez Di Rosa, votre
pas
exposition
du tout.
Elle n'est pas au Miam Miam qui s'appelle le Miam.
Le Miam. Mais
j'aimerais
oui.
bien qu'il s'appelle le Miam Miam, ce musée des arts modestes. Non, elle n'est pas au Miam, elle est au musée.
Elle est au crack. Au crack.
Voilà. Ils sont bons A7 quand même sur les noms, il y a le Miam et le crack.
Voilà, mais ils sont bons surtout en art.
Alors on va essayer de comprendre en radio, d'essayer de décrire le travail d'un artiste. Et ça, Marie, je vais voir le ouais, talent que vous arrivez à essayer de nous faire
tester,
visualiser
bien
des choses.
Ouais. Alors Jean-Michel Autoniel, vous connaissez, vous les auditeurs, au moins une partie de son œuvre si vous êtes déjà passé devant la station de métro au Palais Royal ou devant la fontaine du Théâtre d'Eau dans les jardins du Château de Versailles. En ce moment, si vous êtes à Sète ou à Montpellier, il y a une double exposition donc où vous pouvez voir des sculptures de verre assez étincelantes. C'est votre truc, un peu votre dada, le verre. Ce sont des sortes de géométrie amoureuse. Alors, vous avez dit il n'y a pas très longtemps en interview que vous aviez aspiré à la beauté toute votre vie, mais que ça faisait pas très longtemps que vous connaissiez ou que vous compreniez le sens du mot beauté. Et ça m'a un petit peu interrogée. Ça veut dire quoi, du coup, la beauté ? C'est quoi ?
C'est assez drôle parce que j'ai découvert le vrai sens de la beauté en allant au Japon, où j'ai exposé. Mon exposition du Centre Pompidou est allée au Japon il y a quelques années. Et cette beauté qui me traînait, qui me collait comme un truc un peu, comme une sorte de péché judéo-chrétien.
De vouloir faire de l'art beau.
Ouais,
péché,
non, pas vouloir, mais faire des choses belles. C'était un peu quelque chose qui était soupçonné de moindre radicalité, je sais pas quoi. Alors qu'au Japon, la beauté, c'est une étape pour avoir un accès au sacré. Et c'est vrai que quand j'ai montré mes œuvres au Japon, cette beauté m'a permis de voir peut-être des choses plus spirituelles dans mon travail. Voilà.
Vous avez une sorte d'épiphanie japonaise.
Oui, exactement, c'est le mot.
Parce qu'avant, on a peur de quoi ? On a peur du fameux mot décoratif, on a peur que l'art serve à décorer, serve à faire encore pire que beau, à faire joli.
Oui, c'est ça le problème de l'art en France, parce que c'est une chose qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, mais en France, il y a cette espèce de culpabilité par rapport au beau. Et moi, j'ai essayé de tomber dedans il y a très longtemps.
Dans le beau.
Dans le beau, malgré moi, en essayant de faire des choses... en essayant justement de faire des choses moches, mais j'y arrivais pas. Voilà.
Vous travaillez beaucoup le verre, vous êtes très connu pour ça. Et alors pour cette exposition, notamment pour les nouvelles œuvres qui sont exposées à Sète, il y a par exemple une vague de 10 mètres de haut, vous avez fait un vrai travail d'alchimiste. Ça a l'air incroyable cette histoire, vous avez recréé un matériau disparu.
Alors il y a deux choses, il y a la grande vague d'abord, c'est aussi lié au Japon, parce que quand je préparais mon exposition au Hara Museum à Tokyo, c'était pendant le tsunami. Et c'est vrai que là, j'ai eu un espèce de choc comme la planète entière. Et j'ai commencé à dessiner des vagues. Et puis, j'en faisais rien. C'était juste comme ça pour moi, comme un carnet de voyage. Et puis après quand Noël Tissier au Crac, justement, m'a demandé d'exposer et que le set est connu parce que c'est... C'est l'endroit où Gustave Le Gray a photographié pour la première fois au monde une vague en mouvement, en 1857, si je ne me trompe pas. Je me suis dit, moi aussi, il faut que je fasse une vague à 7. Et donc, ce mélange du tsunami plus de la vague de 7, ça a donné cette œuvre énorme, monumentale, qui fait 25 tonnes, 15 mètres de long, 6 mètres de haut.
Qui engloutit carrément les spectateurs.
Oui, qui est vraiment un travail sur l'architecture. C'est la première fois que je fais ça. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi sur ce projet. Avec des ingénieurs, des architectes. Enfin, c'est entre l'architecture et puis la sculpture. C'est un lieu immersif, c'est pas mal pour une vague. Et voilà, et donc j'ai monté ce projet pour 7. Voilà, donc on le trouve à 7, ce projet monumental.
Et pour revenir à ce travail d'alchimiste que vous avez fait.
Alors ça, c'est un autre projet. On peut voir la première pièce faite en alchimie que j'ai faite à Montpellier, ce coup-là, au Carré Sainte-Anne. Où c'est une œuvre en obsidienne. L'obsidienne, c'est le verre des volcans. Et j'ai découvert à la fin des années 80 que la pierre ponce et l'obsidienne, c'était la même chose, grâce à une vulcanologue de Lipari, où j'étais allé, et qui m'a lancé ce défi en me disant « Celui qui pourra refondre la pierre ponce en tirera l'obsidienne ». Et donc j'ai travaillé pendant plus de 2 ans aussi là, avec le CIRVA à Marseille, qui est un centre de recherche sur le verre. Et on a recréé cette obsidienne disparue. Donc ça a été mon premier travail sur ce verre noir et qui a fait que je tombe dans le verre pour 15 ans maintenant.
C'est beau comme Jean-Michel, obsidienne. Oui,
Jean-Michel Otteniel, on voudrait juste savoir, moi j'imagine pas comment les artistes contemporains travaillent. C'est-à-dire qu'avant on voyait bien quelqu'un face à Chevalet, un sculpteur, certains artistes conceptuels on imagine. Jeff Koons ou Damien Hirst, je crois que ce sont des énormes ateliers. Est-ce que vous aussi, vous avez l'idée, vous la dessinez et après vous avez un atelier avec toute une équipe technique qui la concrétise, ou est-ce que c'est vous qui êtes à toutes les étapes?
Alors non, je travaille avec un atelier, pas aussi important que celui de Jeff Koons. Nous on est 16, on n'est pas 40, mais bon, c'est déjà pas mal. Et oui, je travaille avec des gens qui sont avec moi, architectes, ingénieurs.
Super production, presque un cinéaste. En fait.
Là, on atteint quelque chose du niveau d'une production de cinéma, oui.
C'est beau l'ambiance, ça s'ouvre dans le verre, ça tourne, il y a un type qui polie, il y a machin, il y a du bruit, il y a de la... C'est comment l'atmosphère de votre atelier?
C'est hyper sexy.
C'est plutôt, il y a de la sueur, ça transpire.
Non, c'est hyper sexy parce que tout le monde en est... Voilà, c'est toute une génération de jeunes gens qui sont autour de moi et avec qui on développe tout ce travail pour être à temps, pour être au rendez-vous. C'est vraiment, oui, comme un film.
Vous ne prenez pas les vieux, vous prenez que des jeunes.
Non, moi je suis vieux déjà, donc ça fait moi déjà qui joue le rôle du vieux.
Il y a des jeunes qui sont très vieux. C'est où cet atelier?
C'est à Paris, dans le 3e arrondissement.
Et on a le droit de passer voir?
Ça ne suffit pas, mais rappelez-moi l'adresse.
Je ne peux pas vous donner l'adresse.
Il y a donc une double exposition à la fois à 7 et à Montpellier. Vous pouvez évidemment faire les deux, c'est pas loin l'un de l'autre.
Il faut faire les deux, c'est à 20 minutes.
Elles se répondent un petit peu en
plus. Et puis il faut venir pendant le Worldwide Festival.
Voilà, comme ça vous faites d'une pierre 2 coups, Worldwide.
3 coups.
Avec Jill Peterson et ensuite l'exposition de Jean-Michel Otteniel. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
On va écouter Kezia Jones qui est sous la
verrière. Et embrasser Catherine pour moi.
Elle est déjà partie.
De toute façon, oui, moi je vais la retrouver dans cet hôtel.
Oui, j'en suis sûr.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Les dernières minutes de plus près de toi sur l'axe Tokyo-Paris, et c'est Rudy qui est sous la verrière. Oui.
Oui Marie, on est sous la verrière,
oui.
Tout à fait.
Il fait déjà avec Kezia Jones, il fait déjà très chaud.
Degrés. C'est l'avant-dernier live de la saison. Et ce matin, pour clôturer la semaine, nous partons du côté de Lagos. Enfin, Lagos, mais le reste du monde aussi, puisque nous recevons un véritable voyageur, un amoureux des cultures tout aussi différentes soient-elles. Un jour au Nigeria, un soir au Brésil, le lendemain à Londres et ce matin avec nous de retour à Paris, sous cette verrière où il nous avait offert une nova session absolument magistrale il y a quelques années de cela. Bienvenue, monsieur Kezia Jones. Pour ceux qui auraient loupé une époque, Kezia Jones, musicien vagabond dont la carrière débuta dans le métro parisien, inventeur d'un style, le blue funk, ce mélange de funk, de soul et de blues, des titres devenus des classiques, Rhythm is Love, Beautiful Emily, Familiar Eyes, Million Miles from Home et tellement d'autres. Mais surtout, depuis 20 ans, Kezia Jones est l'un des ambassadeurs majeurs d'un afro-modernisme musical, d'une Afrique forte, créative, qui a son futur entre les mains de ses artistes, qu'ils soient chanteurs, peintres, DJ, sculpteurs, plasticien. Kezia repasse ce matin par Nova pour nous présenter en totale avant-première un EP de cover qui sortira à la rentrée prochaine, qui n'a même pas de titre pour l'instant, dont le premier extrait est une reprise de Prince, Joy in Repetition, les joies de la répétition. Kezia Jones, merci d'être là, bienvenue, c'est à vous. Kezia Jones, Joy of Repetition, une reprise de Prince.
Merci Kezia Jones, merci Rudy, merci à Marie, Armel, merci à Thierry, merci à tous. C'était la dernière émission ici à Tokyo. On rentre pour faire la toute dernière de la saison lundi en public sous la verrière. Venez, viens nombreux.
Viens nombreux, inscris-toi sur le site de Radio Nova, novaplanète.com.
Édouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.